il imagina de lui commander le portrait de la maréchale, un portrait grandeur nature, qui exigerait beaucoup de séances. Il n'en manquerait pas une seule. L'inexactitude habituelle de l'artiste faciliterait les tête-à-tête. Il engagea donc Rosanette à se faire peindre pour offrir son visage à son cher Arnoux. Elle accepta, car elle se voyait au milieu du grand salon à la place d'honneur, avec une foule devant elle, et les journaux en parleraient, ce qui la lancerait tout à coup. Quant à Pellerin, il saisit la proposition avidement. Ce portrait devait le poser en grand homme, être un chef-d'œuvre. Il passa en revue dans sa mémoire tous les portraits de maîtres qu'il connaissait, et se décida finalement pour un Titien, lequel serait rehaussé d'ornements à la Véronèse. Donc, il exécuterait son projet sans ombre factice, dans une lumière franche éclairant les chairs d'un seul ton, et faisant étinceler les accessoires. « Si je lui mettais, pensa-t-il, une robe de soie rose avec un burnous oriental, oh non, canaille le burnous, ou plutôt, si je l'habillais de velours bleu sur un fond gris très coloré, on pourrait lui donner également une collerette de guipure blanche, avec un éventail noir et un rideau d'écarlate par derrière. » Et cherchant ainsi, il élargissait chaque jour sa conception et s'en émerveillait. Il eut un battement de cœur quand Rosanette, accompagnée de Frédéric, arriva chez lui pour la première séance. Il la plaça debout, sur une manière d'estrade, au milieu de l'appartement, et en se plaignant du jour et regrettant son ancien atelier, il la fit d'abord s'accouder comme un piédestal, puis asseoir dans un fauteuil, et tour à tour s'éloignant d'elle et s'en rapprochant pour corriger d'une chiquenaude les plis de sa robe, il la regardait les paupières entrecloses et consultait d'un mot Frédéric. « Eh bien non, s'écria-t-il, j'en reviens à mon idée, je vous flanque en vénitienne. » Elle aurait une robe de lourd ponceau avec une ceinture d'orfèvrerie, et sa large manche doublée d'hermine laisserait voir son bras nu qui toucherait à la balustrade d'un escalier montant derrière elle. À sa gauche, une grande colonne irait jusqu'au haut de la toile rejoindre des architectures décrivant un arc. On apercevait en dessous, vaguement, des massifs d'orangers presque noirs, où se découvrait un ciel bleu rayé de nuages blancs. Sur le balustre couvert d'un tapis, il y aurait, dans un plat d'argent, un bouquet de fleurs, un chapelet d'ambre, un poignard et un coffret de vieil ivoire un peu jaune dégorgeant des sequins d'or. Quelques-uns même, tombés par terre çà et là, formeraient une suite d'éclaboussures brillantes, de manière à conduire l'œil vers la pointe de son pied, car elle serait posée sur l'avant-dernière marche, dans un mouvement naturel et en pleine lumière. Il alla chercher une caisse à tableau qu'il mit sur l'estrade pour figurer la marche, puis il disposa comme accessoire sur un tabouret en guise de balustrade sa vareuse, un bouclier, une boîte de sardines, un paquet de plumes, un couteau, et quand il eut jeté devant Rosanette une douzaine de gros sous, il lui fit prendre sa pose. « Imaginez-vous que ces choses-là sont des richesses, des présences splendides, la tête un peu à droite, parfait, et ne bougez plus. Cette attitude majestueuse va bien à votre genre de beauté. » Elle avait une robe écossaise avec un gros manchon et se retenait pour ne pas rire. « Quant à la coiffure, nous la mêlerons à un tourtis de perles. Cela fait toujours bon effet dans les cheveux rouges. » La maréchale se récria, disant qu'elle n'avait pas les cheveux rouges. « Laissez donc, le rouge des peintres n'est pas celui des bourgeois. » Il commença à esquisser la position des masses. Et il était si préoccupé des grands artistes de la Renaissance qu'il en parlait. Pendant une heure, il rêva tout haut à ces existences magnifiques, pleines de génie, de gloire et de somptuosité, avec des entrées triomphales dans les villes et des galas à l'allure des flambeaux, entre des femmes à moitié nues, belles comme des déesses. « Vous étiez faite pour vivre dans ce temps-là. Une créature de votre calibre aurait mérité un monseigneur. » Rosanette trouvait ces compliments fort gentils. On fixa le jour de la séance prochaine. Frédéric se chargeait d'apporter les accessoires. Comme la chaleur du poêle l'avait étourdi quelque peu, ils s'en retournèrent à pied par la rue du Bac et arrivèrent sur le pont Royal. Il faisait un beau temps, âpre et splendide. Le soleil s'abaissait. Quelques vitres de maisons dans la cité brillaient au loin comme des plaques d'or, tandis que par derrière, à droite, les tours de Notre-Dame se profilaient en noir sous le ciel bleu, mollement baigné à l'horizon dans des vapeurs grises. Le vent souffla. Et Rosanette ayant déclaré qu'elle avait faim, ils entrèrent à la pâtisserie anglaise. Des jeunes femmes avec leurs enfants mangeaient debout contre le buffet de marbre où se pressaient, sous des cloches de verre, les assiettes de petits gâteaux. Rosanette avala de tartes à la crème. Le sucre en poudre faisait des moustaches au coin de sa bouche. De temps à autre, pour l'essuyer, elle tirait son mouchoir de son manchon et sa figure ressemblait, sous sa capote de soie verte, à une rose épanouie entre ses feuilles. Ils se remirent en marche. Dans la rue de la Paix, elle s'arrêta, devant la boutique d'un orfèvre, à considérer un bracelet. Frédéric voulut lui en faire cadeau. « Non, » dit-elle, « garde ton argent. » Il fut blessé de cette parole. « Qu'a donc le Mimi ? On est triste. » Et la conversation s'était renouée. Il en vint comme d'habitude à des protestations d'amour. « Tu sais bien que c'est impossible. Pourquoi ? Ah, parce que... » Ils allaient côte à côte, elle, appuyée sur son bras, et les volants de sa robe lui battaient contre les jambes. Alors, il se rappela un crépuscule d'hiver, où, sur le même trottoir, Madame Arnoux marchait ainsi à son côté, et ce souvenir l'absorba tellement qu'il ne s'apercevait plus de Rosanette et n'y songeait pas. Elle regardait, au hasard, devant elle, tout en se laissant un peu traîner, comme un enfant paresseux. C'était l'heure où l'on rentrait de la promenade, et des équipages défilaient au grand trot sur le pavé sec. Les flatteries de pèlerins lui revenant sans doute à la mémoire, elle poussa un soupir. « Ah, il y en a qui sont heureuses. Je suis faite pour un homme riche, décidément. » Il répliqua d'un ton brutal. « Vous en avez un cependant ?» Car M. Oudry passait pour 3 fois millionnaire. Elle ne demandait pas mieux que de s'en débarrasser. « Qui vous en empêche ?» Et il exhala d'amères plaisanteries sur ce vieux bourgeois à perruque, lui montrant qu'une pareille liaison était indigne et qu'il devait la rompre. « Oui, » répondit la maréchale comme se parlant à elle-même, « c'est ce que je finirai par faire, sans doute. » Frédéric fut charmé de ce désintéressement. Elle se ralentissait, il la crut fatiguée. Elle s'obstina à ne pas vouloir de voiture, et elle le congédia devant sa porte, en lui envoyant un baiser du bout des doigts. « Ah, quel dommage ! Et songez que des imbéciles me trouvent riche !» Il était sombre en arrivant chez lui. Hussonnet et Delory l'attendaient. Le bohème, assis devant sa table, dessinait des têtes de turc et l'avocat, en bottes crottées, sommeillait sur le divan. « Ah, enfin ! » s'écria-t-il. « Mais quel air farouche ! Peux-tu m'écouter ?» Sa vogue comme répétiteur diminuait, car il bourrait ses élèves de théories défavorables pour leurs examens. Il avait plaidé 2 ou 3 fois, avait perdu, et chaque déception nouvelle le rejetait plus fortement vers son vieux rêve, un journal où il pourrait s'étaler, se venger.